100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Une farce a dénoncé Kiev après les élections séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui ont conforté les dirigeants pro-russes des républiques autonomes de Lugansk et Donetsk. Les scores parlent d'eux-mêmes. 81% des suffrages pour Alexander Zakharchenko dans la région de Donetsk et à Lugansk, Igor Plotnitsky élu avec 63% des voix. Le scrutin reconnu par Moscou et par Moscou seulement n'était contrôlé par aucun observateur international. Kiev accuse d'ailleurs Moscou d'avoir créé une fausse OSCE, une obscure association de sécurité et de coopération en Europe, composée d'hommes politiques de droite, acquis à sa cause. L'OSCE, la vraie, qui cherche à déminer le terrain et les affrontements entre l'Est et l'Ouest. 10 militaires ukrainiens ont encore trouvé la mort ce week-end pour surveiller l'Est du pays. L'organisation européenne utilise désormais deux drones fabriqués par une entreprise autrichienne à Vienne, Nathanaël Vitran.
Ce ronronnement caractéristique, on peut désormais l'entendre à la frontière russo-ukrainienne. Le Kamcopter S-100 ressemble à l'union improbable entre un hélicoptère miniature et une bouche d'aération. L'engin est équipé d'une caméra, d'un radar, de capteurs thermiques et de zooms impressionnants, mais n'est pas conçu pour être armé. Pour l'OSCE, l'utilisation de drones est une première. L'organisation internationale basée à Vienne a choisi une entreprise autrichienne pour relever ce défi. Schiebel n'est pas un inconnu dans le secteur. L'entreprise fournit par exemple à l'armée américaine ses appareils de déminage. Et c'est justement pour repérer les champs de mines que l'entreprise a produit ses premiers drones il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ces appareils sont utilisés par les gardes-côtes français et italiens pour repérer les embarcations de réfugiés ou lutter contre la pêche illégale. Schiebel a également livré les armées du monde entier, y compris celle de Muammar Kadhafi en 2011. En Ukraine, les deux appareils livrés fin octobre sont pour l'instant cantonnés à une zone comprise entre Donetsk et Mariupol au sud-est du pays. Avec 8 heures d'autonomie, un rayon d'action de 200 km et la possibilité de voler jusqu'à 1500 mètres d'altitude, il devrait permettre à l'OSCE de mieux quadriller la région sans mettre en danger son personnel. L'entreprise et l'organisation internationale se veulent rassurants, même si les appareils devaient tomber entre de mauvaises mains, il est impossible de les utiliser à des fins offensives. Schiebel n'a d'ailleurs pas l'intention de se cantonner au marché militaire. Qu'il s'agisse de l'agriculture ou de la lutte anti-incendie, l'utilisation des drones à des fins civiles est un marché porteur, et la discrète entreprise autrichienne entend bien en profiter.
La police britannique est confrontée à un nouveau type de maltraitance des enfants. Les accusations de sorcellerie et les tortures qui en découlent font désormais l'objet de plaintes. 27, rien qu'à Londres cette année, à tel point que le gouvernement a décidé mi-octobre de sensibiliser les écoles et les travailleurs sociaux au problème. Dans la majorité des cas, les familles concernées sont originaires d'Afrique de l'Ouest et appartiennent à des églises évangéliques non reconnues. Reportage à Londres signé Marie Billon.
Des églises évangéliques comme celle-ci, il y en a plus de 500 rien qu'à Londres. Le Kingsway International Christian Center peut se vanter d'avoir la plus grande congrégation de la capitale avec plus de 1000 personnes sur ses bancs chaque dimanche. Le lieu de culte à pignon sur rue est finalement une église chrétienne comme les autres, si ce n'est son goût pour le charismatisme. Mais des dizaines d'autres églises évangéliques sont souterraines. Elles conservent des croyances et des pratiques superstitieuses et ces pasteurs ne sont pas officiellement ordonnés.
Chacun, il peut par exemple demain vous dire que je suis maintenant pasteur. Et je commence mon église dans le salon et puis ça grandit, c'est avec d'argent, donc je vais construire une église. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'autorité centrale.
Justine Baunga appartient à Afruka, une organisation spécialisée dans les maltraitances à enfants. Selon lui, c'est à cause de ces églises et de leurs prêcheurs mal intentionnés que le mythe de la sorcellerie et de la possession survit au Royaume-Uni. D'après lui, c'est assez nouveau, il y a 20 ans, le problème n'existait pas, ou presque, en Europe. Mais depuis, l'exorcisme est devenu un véritable business.
pour on appelle ça délivrance. On paye. Et ça dépendra, paraît-il, de la gravité de la situation. Ils savent bien, ce sont des psychologues, ils savent comment extraire de l'argent chez eux. Quand vous avez de l'argent, vous demandez plus. Quand vous avez plus d'argent, vous demandez moins.
Une arnaque qui se double bien souvent de cruauté. Ce sont les plus vulnérables qui sont accusés de sorcellerie parce qu'ils ne peuvent ni se défendre ni démontrer leur innocence. Les victimes ont donc rarement plus de 15 ans. Kevani Kanda avait 6 ans quand un membre de sa famille l'a accusé.
Ils pensaient que j'étais une sorcière parce qu'ils ne comprenaient pas comment je pouvais être somnambule ou parler dans mon sommeil. Pour eux, ce n'était pas normal et cela voulait obligatoirement dire que j'étais possédée par un esprit malin.
Kevani Kanda a 25 ans aujourd'hui et elle s'exprimait dans le documentaire qu'elle a réalisé Branded a Witch pour la BBC. Le film se concentrait sur l'origine du problème dans les églises de l'Afrique de l'Ouest et au Congo en particulier, son pays d'origine. L'histoire de Kevani est un exemple parmi tant d'autres. Selon Justin Baunga qui se bat contre les maltraitances, l'élément déclencheur, c'est toujours la famille qui essaie de trouver une explication surnaturelle à un phénomène rationnel.
S'il y a par exemple un problème d'emploi, vous perdez votre emploi, vous demandez un visa, vous n'allez pas, ou bien les parents, par exemple, ils ont un enfant qui se comporte très mal. Vous savez le comportement des adolescents. Mon enfant se comportait très bien quand il était... Qu'est-ce qui se passe ? Donc ils disent, mais il y a quelque chose là.
Et quand un chef religieux diagnostique une possession, il prescrit alors un traitement qui finit toujours par la violence.
D'abord, c'est la prière. Quand la prière ne marche pas, on dit on va forcer le démon ou les esprits de l'enfant. Ça consiste à frapper l'enfant, ou bien on dit se l'étrangler. C'est demi-étranglement qu'on veut enlever le souffle à l'esprit, mais pas à l'enfant. Donc on fait gêner l'enfant pour une semaine pour affaiblir l'esprit dans l'enfant. Les parents ne sont pas conscients en fait que c'est l'enfant qui souffre, que ce n'est pas l'esprit.
C'est exactement ce qui s'est passé pour Kevani Kanda.
J'ai été battue, j'ai été giflée, j'ai été punie. Et l'une des punitions était la privation de nourriture.
Parfois, comme l'agent Terry Sharp de la police métropolitaine l'a rappelé dans une conférence de presse, les traitements sont encore plus violents.
Des enfants ont été forcés à boire des liquides non identifiés, d'autres ont été lancés contre les murs. Tout ça pour se débarrasser de l'esprit malin qui les habite.
Plusieurs cas ont fait la une des journaux parce qu'ils ont conduit à la mort de l'enfant. C'est le cas de Victoria Klimbiye, morte en 2000 à l'âge de 8 ans, et 10 ans plus tard de Kirsty Bamou, 15 ans. En 2001, Scotland Yard a même retrouvé le torse d'un jeune garçon dans la Tamise. Il pense qu'il a été victime d'un sacrifice rituel. Pour l'instant, la police traite chaque cas comme de la maltraitance à enfant, mais Justin estime qu'il faudrait un texte de loi qui prenne en compte la spécificité du problème.
On avait demandé qu'il y ait une loi qui pénalise les gens qui osent accuser un enfant d'être sorcier ou sorcière. Parce que, un, c'est un abus émotionnel. Deuxièmement, c'est une fausse accusation. Et troisièmement, c'est une incitation à la haine. Et aussi, c'est une incitation à la violence.
Dès que l'enfant est accusé, il est jugé coupable et condamné, selon Justin. Alors, Afrika a commencé à proposer des formations aux enseignants et aux travailleurs sociaux pour qu'ils parviennent à identifier les violences qui découlent de ces allégations, pour qu'ils posent les bonnes questions. Parce que souvent, les enfants sont trop jeunes pour faire preuve de discernement et ils croient, eux aussi, qu'ils sont possédés.
Livre.
La locomotive allemande est-elle à bout de souffle? En tout cas, les prévisions de croissance sont nettement moins généreuses que prévues. 1,3% pour cette année et 1,2% pour l'an prochain. De quoi remettre en cause le sacro-saint modèle allemand, un objectif qui est au cœur du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Le retour de l'Empire allemand ou le modèle imaginaire aux éditions Jacques Flamand. Bonjour Pascal Ordonneau.
Bonjour.
Vous êtes banquier, auteur de plusieurs ouvrages sur la finance et dans votre livre, vous vous élevez avec virulence contre ce fameux modèle allemand porté au pinacle. Les derniers chiffres sur la baisse de régime du système allemand vous confortent dans votre analyse. L'économie allemande ne va pas si bien.
Je ne veux pas dire un seul instant que le modèle allemand, si tant est qu'il existe, soit un mauvais modèle pour les Allemands. Si les Allemands sont heureux, ils sont heureux. D'ailleurs, les Allemands, ils ont voté pour Angela Merkel. Donc c'est merveilleux. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes en Allemagne. Le problème, c'est que les Allemands se sont mis dans l'idée que leur modèle était si bon qu'il faudrait que les autres le suivent. Les autres, vous devinez immédiatement que ce sont les affreux latins, d'un côté. Alors, les Espagnols, on les oublie un petit peu, mais on y pense quand même. Les Italiens, on n'arrivera jamais à faire rien avec eux. Mais surtout les Français. Les Français qui se haussent du col, qui passent leur temps à donner des conseils, qui ont des inspecteurs des finances, qui savent tout sur tout, etc. Et donc les Allemands disent, nous, notre modèle, il est vachement bon, il est efficace, on marche bien, on équilibre notre budget, notre endettement diminue. Donc, suivez, faites comme nous. Et je dis que non. D'abord, petit 1, ça marche pour les Allemands, c'est bien, bravo. Mais petit 2, ça ne peut pas marcher pour l'Europe et pour une raison extrêmement simple, c'est que s'il y a un modèle d'autodestruction, c'est celui qui s'appelle le modèle allemand.
Alors autodestruction parce qu'il y a une focalisation excessive sur cet équilibre budgétaire.
Ce modèle, à l'heure actuelle, fonctionne tout simplement parce qu'on est dans une économie de rentiers et qu'on est dans une économie qui est sur le point de s'effondrer démographiquement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites pas d'enfants, quand votre démographie se casse la figure, il y a des tonnes de dépenses, des milliards d'euros de dépenses que vous ne faites pas.
Et ça va même plus loin, puisque l'Allemagne est aujourd'hui critiquée parce qu'elle n'investit pas assez dans ses infrastructures, notamment ses infrastructures de transport.
C'est vrai. La réalité, c'est que les Allemands ont focusé complètement sur l'équilibre budgétaire et ont abandonné des pans entiers de l'économie. L'Allemagne est membre de l'OTAN. L'Allemagne devrait donc faire des efforts dans le domaine de la défense, de la stratégie défendue par l'OTAN. Le problème, c'est que, à l'heure actuelle, à peu près 80% des équipements allemands militaires sont inutilisables. C'est d'ailleurs si vrai que pour obtenir de l'Allemagne qu'elle collabore avec la France dans les problèmes du Sahel, il a fallu se battre. Et on est arrivé avec des trucs qui étaient peanuts.
Donc vous dites dans votre livre, il n'y a pas de miracle allemand, il y a pire. Vous dites presque l'Allemagne est aujourd'hui au bord du gouffre.
Alors, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est un constat que font les Allemands. Ben, l'Allemagne, c'est bon parce que sa démographie est nulle. Et que la tendance est telle que pendant 25 ans, les Allemands vont perdre des habitants, et c'est pas rien, puisqu'ils vont passer de 80 millions d'habitants à peu près 73-75. Alors, le problème, c'est que, évidemment, ce sont des consommateurs en moins. Évidemment, c'est de l'innovation, de la créativité, de l'imagination en moins. Les seniors sont méritoires, mais...
La bombe à retardement des retraités.
C'est la bombe à retardement, non seulement des retraités, mais aussi d'un marché qui va être, vous savez, le marché se rétrécit. Ce qui veut dire que pour nous, Français, on va se trouver en face d'un univers qui consommera beaucoup moins, qui nous achètera beaucoup moins. Donc, on est en face d'une situation qui va faire que faire l'Europe ou faire redresser l'économie française va être de plus en plus difficile.
On s'inquiète pour l'Allemagne. En tout cas, en ce moment, c'est l'Allemagne qui s'inquiète pour la France. Merci, Pascal Ordonneau. Je rappelle le titre de votre livre, Le retour de l'Empire allemand ou le modèle imaginaire. La contrebande de plantes et d'espèces animales inquiète le gouvernement turc. Sous couvert de tourisme, des trafiquants viennent voler des espèces rares, avec pour conséquence un vrai déséquilibre de la biodiversité. Après avoir longtemps ignoré le problème, le gouvernement, tout comme les scientifiques, tire à la sonnette d'alarme. Reportage à Istanbul d'Anandlauer.
Cette plante-ci est en voie de disparition. C'est un colchicum. On en fait de la colchicine.
Erdal Uzen est intarissable quand il s'agit de parler de ces plantes. Les quelques 8000 plantes, arbres et buissons qui peuplent le jardin botanique de l'Université d'Istanbul, le plus ancien et le plus fourni de Turquie. Avec sa petite barbe blanche et ses lunettes de professeur, il inspecte chaque matin les moindres parcelles du jardin. À ses élèves de botanique, il décrit pendant des heures la flore exceptionnelle du pays dans lequel ils vivent, pour ne citer que les végétaux.
La biodiversité turque est l'une des plus riches du monde. On a recensé près de 11 500 espèces de plantes et on en découvre entre 100 et 150 chaque année. Un quart de ces plantes sont endémiques, on ne les trouve qu'ici. La Turquie, à elle seule, est presque aussi riche que tout le continent européen, qui abrite environ 15 000 espèces. C'est pour ça que la flore turque a tant de succès. Des gens viennent du monde entier pour observer nos plantes. C'est même devenu une forme de tourisme.
Finlande.
Le problème, c'est quand ces touristes n'en sont pas. Quand ces étrangers un peu trop curieux de la faune et de la flore turque sont en fait des trafiquants qui s'emparent d'espèces protégées pour les revendre à l'étranger. Ils sont tchèques, russes, suisses ou encore néerlandais, simples intermédiaires ou même parfois universitaires. Ils n'hésitent pas à cacher dans leur bagage, au risque d'être pris, des serpents, des insectes, des oiseaux, des papillons, des bulbes et autres plantes rares. C'est ce qu'a révélé au cours d'un récent congrès une représentante du ministère de l'Eau et des Forêts. Yılmaz Çamlıtepe, professeur de biologie à l'université de Thrace, est bien placé pour le savoir. L'université est située à quelques kilomètres de la frontière grecque, où lui et ses collègues sont appelés chaque année pour récupérer le butin de trafiquants pris sur le fait.
Une partie de ce trafic est destinée à des collectionneurs qui achètent à prix d'or des espèces endémiques turques, des papillons par exemple. Une autre partie est destinée à l'industrie pharmaceutique. C'est le cas notamment du venin de certains serpents. Là encore, les sommes en jeu sont colossales. Je suis sûr que les chiffres officiels des saisies sont très très en deçà de la réalité. On ne recense que ceux qu'on attrape.
Ces chiffres officiels font état de seulement 2 arrestations en 2009, 9 en 2010 et 21 en 2011. Un bilan très maigre, regrette Yılmaz Çamlıtepe, qui reconnaît tout de même que si les chiffres augmentent, c'est que le problème qu'il dénonce commence à être pris en compte par les autorités. Mais pour vraiment lutter contre le phénomène, il faudrait selon lui des sanctions dissuasives.
Tout ce que risquent les trafiquants, c'est un maximum de 13 000 euros d'amende. Et quand ils font appel du verdict, souvent l'amende est annulée. Le problème, c'est que la contrebande d'espèces animales et végétales n'est pas considérée comme un crime dans le code pénal. Les trafiquants ne vont jamais en prison. Mettez-vous à leur place. D'un côté, la perspective de toucher des sommes énormes. De l'autre, le risque de payer une amende minime en comparaison. Et encore, si vous êtes pris.
C'est ce qui est vraisemblablement arrivé à 6 trafiquants tchèques arrêtés il y a 3 ans à la frontière gréco-turque. Ils cachaient dans leur coffre pas moins de 6000 insectes de 68 espèces différentes. Yılmaz Çamlıtepe souhaiterait non seulement des contrôles plus fréquents et des punitions plus sévères, il insiste également pour que les populations locales soient formées et s'emparent du problème.
La lutte contre ce fléau est difficile. Il est très compliqué de repérer les trafiquants. Il faudrait les pister sur le terrain, donc mobiliser beaucoup de personnel. On doit de toute façon augmenter les contrôles, mais il faut aussi que les locaux aient le réflexe d'appeler les autorités quand ils voient des personnes en train de cueillir ou de ramasser quelque chose. Une ligne téléphonique existe, mais malheureusement, notre société est très loin d'être sensibilisée au problème.
C'est du safran. Vous voyez les petits stigmates rouges ? Même ici, on est obligé de les protéger.
Erdal Uzen, le botaniste, prêche pour les mêmes solutions. Lui qui a dû mettre une grille autour de ses plants de safran pour que les visiteurs du jardin botanique ne soient pas tentés de les prendre. Il aimerait que ses compatriotes comprennent qu'il est question de beaucoup plus que quelques insectes volés par-ci ou quelques plantes arrachées par-là.
D'abord, le trafic peut faire disparaître des espèces. Prenez la colchique de Kadıköy, une fleur endémique d'Istanbul. Il n'en reste qu'une 20aine. Si vous les arrachez, c'en est fini de l'espèce. Ensuite, il ne faut pas penser en termes de telle ou telle espèce, mais de tout l'écosystème qui l'abrite. Peut-être qu'en arrachant cette fleur, vous menacez l'insecte qui la butinait, et l'oiseau qui mangeait l'insecte, et l'aigle qui mangeait l'oiseau. La nature est une chaîne. En faisant disparaître cette plante, vous menacez tout ce qui vivait dans cet environnement.
Signe que le problème est enfin pris à bras le corps, le gouvernement turc plancherait en ce moment sur un plan de lutte contre la contrebande biologique.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. Demain, nous reviendrons bien sûr sur la suite des élections séparatistes en Ukraine. Et puis, reportage également en Suède où le marché immobilier est en crise. À demain.